frères et sœurs, on raconte que saint Augustin rencontra un jour, sur une plage, un jeune garçon qui cherchait, avec l'aide d'un coquillage, à mettre toute l'eau de la mer dans un trou de sable. Et au moment où Augustin arrivait, l'enfant commençait à réaliser qu'il n'y arriverait pas. Plus tard, Augustin se souviendra de cet épisode pour souligner qu'il est tout aussi impossible de chercher à faire entrer Dieu, qui est infini, dans un esprit humain limité. Cette image m'est revenue à l'esprit en commençant à penser au grand mystère de la miséricorde divine que nous célébrons ce dimanche. Car la miséricorde n'est pas un attribut de Dieu parmi d'autres. Elle désigne Dieu lui-même, Dieu en personne, Dieu dans la vérité de sa révélation. Nous ne finirons jamais de contempler la miséricorde et de nous laisser atteindre jusqu'à l'intimité par la tendresse infinie que Dieu nous porte, la tendresse du Père pour chacun de ses enfants, la tendresse qui apaise et qui relève, qui guérit et qui sauve. Une manifestation concrète et saisissante de la miséricorde nous apparaît dans le passage d'Évangile qui vient d'être proclamé. La scène se déroule après la mort de Jésus, alors que la nuit est déjà tombée. Les apôtres se sont retrouvés et nous imaginons qu'ils ruminent ensemble leur peine et leur désolation. Les questions doivent se bousculer et susciter la confusion dans leurs esprits un peu embrumés. Depuis la mort de Jésus, les repères dans l'espace et dans le temps s'en mêlent, au point que tout avenir semble désormais compromis. Et pourtant, le voilà qui surgit au milieu d'eux, en révélant sa présence par quelques mots. La paix soit avec vous. La miséricorde est d'abord une présence attentive et réelle. Il est là et il rejoint leur solitude, leur tristesse, leur égarement, leur blessure. Il est là et il les regarde l'un après l'autre avec le grand désir de les appeler une nouvelle fois à sa suite. Il est là et il répète les mots de la reconnaissance, « La paix soit avec vous ». Aussitôt il ajoute, « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie ». Mais que lui arrive-t-il? Aurait-il déjà oublié le triple reniement et les petites lâchetés, l'abandon au jardin de Gethsémani, les réflexes de peur et le manque de foi? Non seulement il ne leur adresse aucun reproche, mais il leur confie une mission, et non des moindres, celle de partir annoncer en tout lieu et en toutes circonstances que le Seigneur vivant est présent dans le monde. Il compte sur eux en les associant à sa propre mission reçue de son Père. Dès lors, la logique de la miséricorde franchit une nouvelle étape. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Jusqu'à cette heure, la miséricorde était le caractère propre de Dieu, son attribut exclusif. Et voilà qu'il dépose un si grand don entre des mains humaines. Il demande à des êtres fragiles de transmettre à d'autres la force bienfaisante de sa miséricorde. Le pape Jean-Paul II consacra sa toute première encyclique à la miséricorde. Voici, écrivait-il, que le Fils de Dieu, dans sa résurrection, a fait l'expérience radicale de la miséricorde, c'est-à-dire de l'amour du Père plus fort que la mort. Et c'est bien de la mort qu'il veut nous sauver, en commençant par la mort que provoque le péché présent au cœur de notre vie humaine. En Jésus ressuscité, Dieu accomplit un projet de libération. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Certes, l'hypothèse demeure que les péchés soient maintenus, car il n'est pas assuré par avance que nous consentions à nous laisser délivrer de tout mal. Il arrive, soyons honnêtes, que nous préférions nous accommoder de notre compromission avec le péché plutôt que de nous ouvrir à l'exigence de la conversion. Mais le Seigneur ne se décourage pas et il nous accompagne avec miséricorde, comme il le fait avec Thomas qui a besoin de temps pour se laisser transformer par la foi nouvelle jusqu'à s'écrier « Enfin, mon Seigneur et mon Dieu ». Puissions-nous, chaque jour, découvrir ainsi la présence du Christ à côté de nous et en nous. Ayant ainsi bénéficié de la miséricorde, les apôtres ne vont pas tarder à partir pour vivre la mission qui leur est confiée. Un dernier trait caractéristique de la miséricorde nous apparaît donc dans les versets bien connus du livre des Actes des Apôtres que nous avons écouté en première lecture. Les frères, nous dit-on, étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La miséricorde n'est plus seulement une expérience personnelle dont chacun peut bénéficier à un moment ou l'autre, elle irrigue désormais les relations entre les personnes, donnant corps à l'appel de Jésus, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». La miséricorde n'empêche ni les débats, ni les désaccords, ni même les affrontements qu'il est possible de vivre d'une manière évangélique. Les chrétiens apprennent peu à peu à entrer dans la logique de Dieu. Ayant une vive conscience de la miséricorde qu'ils ont eux-mêmes reçue, ils éprouvent la joie et l'entrain pour la vivre envers les autres. Au tout début de son pontificat, François nous a rappelé que nous sommes appelés à faire grandir une culture de la miséricorde fondée sur la rencontre de l'autre. Le défi est d'autant plus nécessaire et urgent que les sources de conflits et de déchirements sont nombreuses autour de nous, comme elles le sont déjà en nous. Or Jésus nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, selon les mots de l'apôtre Pierre. Il nous envoie dans le monde pour que nous révélions sans tarder le visage de la miséricorde. Amen.